Libre à vous.
L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
Bonjour à toutes, bonjour à tous dans Libre à vous. C'est le moment que vous avez choisi pour vous offrir 1h30 d'informations et d'échanges sur les libertés informatiques et également de la musique libre. Le podcasting ou balado-diffusion, c'est le sujet principal de l'émission du jour. Avec également au programme la chronique d'Antanac en début d'émission, dont on découvrira le thème. Et aussi en fin d'émission, une interview de Duchesse France. Cette émission est proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Couchet, le délégué général de l'April. Le site web de l'émission, c'est libreavoue.org. Vous pouvez y trouver une page consacrée à l'émission du jour avec tous les liens et références utiles et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours ou nous poser toutes questions. Nous sommes mardi 10 octobre 2023, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. À la réalisation de l'émission du jour, c'est sa première. Elle est fondatrice de l'agence web parisweb.art dédiée à la culture et aux arts et elle donne du temps bénévole pour être à la régie de l'émission aujourd'hui. C'est Julie Chaumard. Bonjour Julie.
Bonjour, bonne émission.
Merci, nous vous souhaitons une excellente écoute.
Cause commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France. Partout dans le monde, sur causecommune.fm et sur l'appli Cause commune. Pour participer à notre conversation, 09 72 51 55 46 et aussi sur causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous.
Que libérer d'autre que du logiciel? La chronique d'Antanac. Isabelle Carrère et d'autres personnes actives de l'association Antanac se proposent de partager des situations très concrètes et ou des pensées mises en acte et en pratique au sein du collectif. Le reconditionnement, la baisse des déchets, l'entraide sur les logiciels libres, l'appropriation du numérique pour toutes et tous. Bonjour Isabelle.
Bonjour Fred.
Je te passe la parole.
Ouais, merci beaucoup. Alors, je sais pas si les auditeuristes le savent vraiment bien, mais tous les premiers vendredis de chaque mois, vous savez, on ouvre les portes de la radio, du studio, et on accueille qui veut, qui se déplace pour rencontrer des réalisateurices de Cause commune. On y voit des auditeurs, des auditrices, d'autres journalistes qui viennent de d'autres radios, des intervenants, des musiciens, des musiciennes, dès qu'ils veulent faire une émission, etc. Et alors, le vendredi 6 octobre, c'était donc le premier vendredi du mois d'octobre, j'ai lancé un petit sondage. Je suis allée vers chaque personne présente, qui a un verre à la main, ou une bière, ou un bout de fromage, ou une cigarette. Bref, j'arrive et je demande, dis-moi, quelle est, selon toi, la lutte qui te paraît la plus urgente, la plus cruciale, la lutte à mener là, maintenant? Bon, et là, du coup, j'ai eu pas mal de réponses. D'abord, une personne assez jeune qui me dit « une lutte ?» Tu veux dire quoi? Ben, de toute façon, on peut rien faire. Ensuite, il y a 5 personnes, on était 36 au plus fort de la, enfin 37 avec moi, au plus fort de la soirée, au moment où j'ai posé toutes ces questions. Et donc 5 personnes sur les 36 ont dit, ce qui est plus important pour moi, c'est la question climatique, une vraie écologie, sauver la planète, parce que tout découle de ça. 4 personnes ont dit, les gamins à la rue, j'en veux plus, contre la pauvreté des enfants, que plus une enfant ne meurt de faim, contre la pédocriminalité, sauvegarder les enfants à tout prix. 3 personnes ont dit, la redistribution des richesses, restaurer les services publics communs, stopper l'optimisation fiscale, repenser les utiles. 3 autres ont dit, contre la précarité, sous toutes ses formes et contre la pauvreté. 2 ont dit, stopper l'entassement des gens, fournir des logements décents à tout le monde. Et ensuite on trouvait d'autres propositions, la lutte contre le viol, stopper la culture du viol partout dans tous les lieux. Pour l'amour, le soutien de tous et toutes sans masque. L'égalité homme-femme, l'attention à l'autre, aux autres, aux vivants, casser la machine interclassiste pour que la détermination sociale ne soit plus aussi forte, l'éducation pour toutes, accueillir des personnes migrantes, quelles que soient leurs raisons, se débarrasser de Macron et de sa clique, ses pairs, et aussi des choses, des propositions peut-être plus philosophiques ou poétiques, travailler la complexité, s'extraire de la bipolarité, soigner la langue, l'idiome, lutter contre les approximations de langage et de pensée, contre le temps qui file, les choses à faire toujours plus vite. La lutte des lutins, ceux à qui on appuie sur la tête. Et là, vous vous demandez, qu'est-ce qu'elle nous raconte, là, Isabelle, aujourd'hui, de quoi elle parle? S'est trompée d'émission ou quoi? Non, attendez, je sais, je suis bien là avec vous dans l'émission Libre à vous de l'April. Attendez, ça ne fait pas encore 100% des répondants-répondantes. On était 36, alors vous n'avez pas compté. Mais moi, si. Nous y voilà. Une personne a dit « pour une informatique libre, un Internet vraiment libre pour tous et toutes ». Une autre personne a dit « font chier avec leur Internet ». Et une autre a dit « contre la société de surveillance ». Voilà. Vous voyez, on y arrive. 3 personnes sur 36. Bon, c'est déjà ça, 8% des personnes qui expriment quelque chose concernant l'informatique et le numérique, dans le sens de la défense des libertés. C'est pas si pire. Si on m'avait posé la même question, c'est ce que j'aurais dit, moi. Que la société qu'on prépare, la société numérique, est juste improbable. Qu'on doit refuser tout ce par quoi passent ces affaires numériques, parce que, avec ce qui se prépare, et notamment avec la belle excuse, la bonne opportunité des Jeux Olympiques de l'année prochaine, on est dans une phase dans laquelle vidéosurveillance algorithmique, centre de supervision urbain, drones, matériel anti-drone, robots de contrôle, voire d'intervention, interface homme-machine de plus en plus prégnant et raide, armement automatisé, reconnaissance faciale, etc., etc. Toutes ces technologies de plus en plus présentes nous sont comme rendues obligatoires. Et alors, on s'en accommode? On accepte, on laisse faire? Surveillance plus contrôle plus répression? Ok, on accepte d'être les cobayes? L'obligation d'être toujours plus collé à son ordinateur de bord, son téléphone pour ne rien louper de ce qui se passe dans le monde? Son GPS pour ne pas se perdre dans les dédales de la vie, comme si c'était terrible de se perdre. Toujours et partout sa boîte d'assistance vocale pour appeler au téléphone, faire chauffer le café, mettre la musique, surveiller son cœur, mesurer ses efforts, parce que, bah oui, c'est pratique tout de même. Et ce, avec une surveillance accrue des relations, des réseaux, les confiscations de données, les concentrations de pouvoir énormes, les choix de se laisser porter par des décisions prises par des calculs sur ce qu'on a déjà fait. Allez, c'est pourtant bien. Bon bref, je dis pas que les autres sujets évoqués par les personnes ne sont pas importants, non. Je pensais que plus aurait cité le numérique, mais bon, ça, parce que moi ça me semble être un axe, une porte d'entrée pour tellement d'autres luttes. Bon, je sais, l'intersectionnalité des luttes, c'est pas une chose acquise. On en parle, ou je sais même pas si on en parle encore d'ailleurs. En tout cas, on a du mal à la mettre en pratique dans les luttes au quotidien comme dans les événements plus larges. Dans les luttes pour un environnement plus sain, une réelle écologie, ce qui arrive en tête de liste, la question climatique dans ce petit sondage là que je me suis amusé à faire, ont été cités là. Il y a bien sûr la question des matériaux, l'extractivisme, la destruction des terres, la pollution des sols et de l'eau, et la question du racisme environnemental. Et du coup, bon, pour terminer, j'avais dit à ce propos que le mois dernier, quand je faisais cette chronique en septembre, que je reparlerais des Journées nationales de la réparation, lancées et animées par HOP, Halte à l'obsolescence programmée. Juste un petit mot pour finir cette chronique-là. Vous pouvez aller voir sur leur site, donc JNR, Journée nationale de la réparation, et vous verrez qu'un peu partout fleurissent des propositions d'ateliers, de rencontres, de mini-conférences, de partages sur la réparation. Bon, d'ailleurs, pas que la réparation des ordinateurs, hein, c'est aussi les vélos, les machines, les outils, les tissus, tellement de choses. Bon, nous, à Antanac, on y sera, pour les ordis, bien sûr. On sera sans doute dans le 20e avec d'autres structures du réseau REFIS pour discuter avec des gens de réparation, faire un rapide diagnostic de leur machine, parler de l'entretien et bien sûr du libre. C'est les 20, 21 et 22 octobre. À bientôt.
2023. À bientôt. 2023. Antanac, donc c'est antanac.com avec un K et vous êtes nos voisines, hein, au 18 rue Bernard Dimet. Et si vous souhaitez répondre à la prochaine fois à une question d'Isabelle, ben venez au prochain apéro de la radio qui a lieu donc le premier vendredi du mois. Donc là, le 3 novembre. Alors voilà, j'allais le faire de tête, mais Karine Fillot nous précise, c'est le 3 novembre 2023 à 19h, donc au 22 rue Bernard Dimet. Bah écoutez, merci Isabelle, c'est la chronique donc que libérer d'autres que du logiciel, la chronique d'Antanac avec Isabelle Carrère. Belle fin de journée, Isa.
Merci, toi aussi.
Et à bientôt.
À bientôt.
On va faire une pause musicale. Alors, après la pause musicale, nous parlerons de podcasting. En attendant, nous allons écouter, et c'est un choix d'un de nos invités, en l'occurrence Benjamin Bellamy, nous allons écouter You Will Be Wild par John Lobker. On se retrouve dans 3 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune, 93.1.
Big protest in D.C. on January 6th. Be there. You will be wild. I am your master. You are my slave. You are my wild child. You will do as I say. You will obey. Be there. You will be wild. The magician, you are my rabbit, I trick you into submission, then pull you from my hat. Everybody's so amazed, and they laugh when I say I could shoot this silly rabbit, and you'd all still obey. You will come to DC, you will destroy for me, you will, my child, you will be wild. I am the center of your universe, your reason for being. You will love me more than life itself, you will rot in prison for me. I give you what you always wanted, a purpose for your life. Now you're a soldier on crusade, a victim in this fight. You will obey me, you will come to DC, you will fight, my child. You will be wild for me. On January 6th, you will unleash my inferno of fury on the Capitol Police. You will follow my commands, my suggestions, my demands. You will do as I say. You will obey. Come to DC, my obedient child, January 6th. You will be wild.
Nous venons d'écouter You Will Be Wild par John Lupker, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution CC BY.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
Nous allons passer au sujet suivant. Nous allons donc poursuivre par notre sujet principal qui va porter sur le podcasting avec nos invités Karine Fillot, fondatrice d'Elson, et Benjamin Bellani, fondateur et dirigeant de la société Adores et de Castopod, dont on parlera tout à l'heure. Et je vais les laisser évidemment se présenter un peu plus au début, mais n'hésitez pas à participer à notre conversation sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton chat, salon, libre à vous. Alors bah déjà, première question, une petite présentation rapide pour que les gens vous découvrent. Karine Fillot.
Oui, bonjour. Ça me fait toujours plaisir de venir dans un studio de radio, déjà, puisque j'ai commencé quand j'étais ado la radio. Et aujourd'hui, après un long parcours, notamment à Radio France, j'entreprends dans ce qui n'est pas complètement de la radio, mais ce qui n'est pas... c'est aussi de la radio, c'est le podcast. Aujourd'hui, Elson, c'est à la fois une société qui est un organisme de formation. Donc, on accompagne des particuliers, mais aussi des entreprises à concevoir et produire et diffuser des podcasts. On a une activité aussi avec des entreprises ou des organisations autour de la production. Et puis, on s'intéresse de près en expérimentant pas mal de choses avec un prototype aussi autour de ça. On s'intéresse à une forme de découvrabilité des contenus, comment recommander des contenus, pas uniquement de manière algorithmique, mais aussi éditoriale. Donc, on a passé ces dernières années beaucoup de temps à ausculter les contenus à la fois de la radio diffusée en podcast et ce qu'on appelle les podcasts natifs, donc c'est-à-dire des podcasts issus de créateurs qui diffusent sur Internet et pas dans une radio traditionnelle FM.
Merci Karine. Deuxième invité, Benjamin Bellamy.
Oui, bonjour. Alors moi, je suis un libriste convaincu depuis un peu plus d'une vingtaine d'années, auditeur de podcasts depuis un peu moins d'une vingtaine d'années. En 2020, j'ai créé la société Adores, qui développe des outils libres pour créer des écosystèmes équitables et durables pour toutes les podcasteuses et tous les podcasteurs. Qu'est-ce que ça veut dire en deux mots? Eh ben, on développe des solutions informatiques qui permettent de mettre à disposition, c'est-à-dire d'héberger des podcasts, mais aussi de les rendre découvrables, de les transcrire et de les monétiser.
Ok, excuse-moi. En tout cas, des concepts dont on va parler tout à l'heure, justement, découvrabilité, c'est important. Mm-hmm. Alors, on voit donc qu'on a affaire quand même à deux personnes expertes, hein, dont l'une a une très grosse expérience radio. Alors, les gens qui nous écoutent, beaucoup de gens qui nous écoutent surtout souvent en podcast, hein, même si on a évidemment des auditrices et des auditeurs sur la bande des fans. Donc, peut-être qu'ils ont, ces personnes-là ont une idée de ce que c'est un podcast. Mais on va quand même commencer par expliquer c'est quoi un podcast, le concept de podcasting, qu'est-ce que c'est concrètement. Qui veut commencer? Karine?
Allez, alors déjà, aujourd'hui, c'est un mot qu'on utilise à plein de sauces pour délivrer plein de réalités, en fait. Mais on va dire que si on doit partir de son origine, d'abord, c'est la contraction de deux mots. Pod, qui, on va le comprendre après, vient beaucoup de l'écosystème au départ d'Apple et de l'iPod, puisque dans les années 90, on n'avait pas de smartphone. Et pour réécouter ou écouter même de la musique, hein, des MP3, on utilisait souvent ce baladeur numérique. Et de cast, diffusion en anglais. Et donc, c'est un mot valise, podcast, qui a été... qui a émergé notamment au moment où la plateforme iTunes d'Apple décide, alors on est en, Benjamin pourra préciser, mais en 2005-2006, on est à un moment où en fait on est dans l'adoption de ce baladeur numérique et Apple agrège en fait, quand on parle de podcast on parle souvent d'agrégation et on commence du coup à agréger des podcasts. Alors derrière ce mot il y a une technologie qui est une très vieille technologie du web qui s'appelle le flux RSS et qui est un format d'indexation de contenu. Benjamin, peut-être tu peux rebondir dessus si tu veux en parler d'une manière un peu plus technique. Et je finirai juste par dire que podcast aujourd'hui c'est aussi du contenu, c'est une manière de dire je fais un contenu qui n'est pas de la radio, qui est un contenu sonore, qui a un ADN un peu différent et qui est donc distribué avec ce mode distribution sous-jacent du coup au flux RSS.
Ouais, tout à fait. Alors, la première chose en fait qu'il faut bien comprendre quand on parle de podcast et pour être lever toute ambiguïté, c'est que on peut pas lever l'ambiguïté. En fait, il y a pas de définition officielle du podcast. Il y en a jamais eu et il y en aura probablement jamais. Donc, tout le monde met un peu ce qu'il veut derrière ce mot valise qui date de 2004. C'est Ben Hammersley, le journaliste au Guardian, qui l'a utilisé pour la première fois. On parlait aussi d'audio blogging à l'époque. Donc chacun met un peu ce qu'il veut derrière le podcast. Alors moi, qui suis ingénieur de formation, j'ai tendance à avoir des définitions qui sont plutôt d'ordre technique. Et moi, ma définition du podcast, c'est que c'est un contenu multimédia, en général un fichier MP3 sonore, qui est dans un flux RSS. Donc le flux RSS que tu as évoqué, qui date de 2000, même pas, je dis une bêtise, de 95. Le flux RSS date de 95. En fait, c'est juste un moyen de partager des informations. À l'époque, on parlait surtout de blogs et de manière totalement décentralisée, c'est-à-dire que chacun peut s'abonner avec le logiciel de son choix. Et en 2000, je pense que c'est important de le noter parce que on fait un peu trop de friends bashing en ce moment. L'invention du podcast technique, on la doit à un Français qui s'appelle Tristan Louis et qui est le premier qui a eu l'idée de mettre un fichier MP3 dans un flux RSS. Derrière, c'était surtout utilisé par ce qu'on appelle des geeks, hein, et c'est en 2003 que Adam Curry, qui est un podcasteur de la première heure, qui avait déjà eu une carrière sur MTV en tant que vidéo jockey, qui le premier a créé un petit programme qui permettait de télécharger tous ces flux RSS. À l'époque, ça s'appelait pas encore podcast, hein, puisqu'on a dit que podcast, le mot podcast a été créé après, sur son iPod. Et donc, en fait, le premier device qui a permis de consommer des podcasts, c'était l'iPod. Et on comprend du coup tout de suite pourquoi est-ce qu'on appelait ça podcast. Et pour l'anecdote, que personnellement je trouve assez truculente, il se trouve que en 2005, donc 2 ans après que Adam Curry ait créé ce petit script qui permettait d'écouter ses podcasts sur son iPod, il a reçu un appel d'Eddie Q, qui travaillait chez Apple, et qui lui a dit « Ah, est-ce que tu peux venir à San Francisco rencontrer Steve Jobs ?» Et donc il s'est retrouvé un matin à San Francisco face à Steve Jobs, qui lui a dit « Ah, mais ton truc, ça m'intéresse, et puis j'ai vu que t'as un petit index avec pas mal de podcasts, est-ce que tu veux bien nous le filer pour que on le mette en avant ?» Adam Curry était très content que ce truc-là prenne de l'importance et que Apple s'y intéresse, donc il a dit oui. Et l'après-midi même, en fait, Steve Jobs, dans sa keynote, a annoncé ce qu'on appelle aujourd'hui Apple Podcast, qui à l'époque était iTunes Podcast. Et donc c'est en 2005, donc un an après l'invention du mot et 2 ans après l'usage sur les iPods, que on a eu l'explosion, en tout cas la première explosion, parce qu'il y en a eu plusieurs, du podcast, et qui a rendu ça visible pour tout le monde, et c'était plus une affaire de geek, c'était vraiment un outil de mass-média, j'ai envie de dire.
Carine. Moi, je me souviens de cette époque-là, peut-être c'était un petit peu après, aux alentours de 2006, je revois un de mes boss franchir le bureau, la porte du bureau, et nous dire, voilà, le PDG donc de Radio France, à l'époque Jean-Paul Cluzel, a décidé que dans moins de 2-3 mois, toutes les émissions de Radio France seraient disponibles en podcast. C'était une vraie révolution. Avant, on diffusait tout juste sur Internet, mais on ne découpait pas les émissions de radio, qui en réalité une radio, elle est déjà découpée virtuellement, ça s'appelle une grille de programme. Donc il a fallu, la radio était numérisée aussi depuis peu, donc il fallait en gros organiser tout ça pour que chaque émission délivre un MP3, puisque un podcast c'est quoi ? C'est un fichier MP3 mis dans un fichier texte. Pour revenir sur cette notion du RSS, moi j'accompagne beaucoup donc d'apprenants et d'apprenantes dans le podcast, et c'est vrai que pour eux toujours c'est un peu obscur cette histoire de qu'est-ce qu'il faut pour faire un podcast. Alors peut-être pour revenir dessus, techniquement qu'est-ce qu'il faut ? Un fichier MP3, mais un podcast c'est la promesse pas d'un seul fichier MP3, c'est la promesse d'une récurrence, comme une émission de radio en fait finalement. Un fichier MP3, il faut, comme si on faisait un site internet, une sorte de serveur, donc on appelle ça un hébergeur de podcast. Et donc pendant longtemps, les hébergeurs de podcast qu'on connaît beaucoup aujourd'hui en France, Castopod en fait partie, il y en a d'autres, Ocha, Podcastix, etc., eh bien, vous mettent à disposition les moyens de générer ce fameux fichier RSS, qui est en fait un fichier texte qui se met à jour. Dans ce fichier texte, c'est pas un langage de code barbare, hein, pour qui ne connaîtrait pas le code, c'est un langage de balises. Ces balises, elles ont été faites donc à cette époque-là, 2005-2006, par Apple. Ça dit, ok, c'est quoi ce podcast ? Le titre de l'émission, enfin le titre du podcast. Puis la promesse, ça va être quoi ? Cette récurrence d'épisodes, ça va être... On le décrit. Et puis ensuite, ça c'est, il y a un en-tête. On dit qui est l'auteur, on dit qui est le visuel du podcast. C'est un en-tête dans ce fichier. Et puis ensuite, on descend et en fait, un podcast, c'est un flux, c'est une pile. Donc ensuite, on va avoir les épisodes. Et donc, un épisode a un titre, a une description et il a une adresse sur Internet, sur un serveur d'un fichier MP3. Et donc, ce fichier, en fait, MP3, quand on s'abonne à un podcast, quand on s'abonne à travers une interface, qui est la plupart du temps une application d'agrégation de podcasts, qui sont aujourd'hui toujours Apple Podcasts ou bien Spotify, etc., eh bien, en fait, on s'abonne à ce fichier qui se met à jour et à travers l'interface d'un player, on vient écouter à chaque fois qu'il y a une mise à jour. Et donc, commence à se développer à partir de 2006 et dans les années qui vont suivre, eh bien, un usage du podcast, celui du podcast, beaucoup de réécoute de la radio. Évidemment, les grandes radios comme RTL, comme Europe 1 et comme le groupe Radio France, eh bien, à ce moment-là, se saisissent de ce nouveau mode de diffusion en comprenant qu'ils vont pouvoir adresser des nouveaux usages, des nouveaux besoins, d'écouter en temps et en heure et où on veut et sur un support mobile, la réécoute de la radio. Et c'est comme ça que les premiers auditeurs, et on en retrouve encore la trace aujourd'hui dans les statistiques, les premiers auditeurs de podcasts sont pas ceux qui ont, et qui sont aussi très représentés, c'est pas forcément des jeunes, ça va être aussi des gens qui à l'époque avaient un Mac, un iPod, et donc qui ont commencé à rentrer dans l'univers du podcast par la réécoute de la radio.
Benjamin ?
Oui, moi je voulais juste m'offusquer violemment contre un détail que tu viens de dire. Apple a pas inventé le podcast, pas du tout, hein. Apple l'a mis en lumière et
oui, c'est ce que je voulais dire.
Ça a contribué énormément à son développement parce que Apple a porté le podcast à bout de bras sans modèle économique pendant plus de 15 ans. Mais Apple a techniquement,
non,
Apple n'a absolument rien inventé. Après, ils ont dit oui, alors si vous voulez qu'un podcast existe, il faut qu'il ait une image carrée de 1400 pixels, qu'il faut etc., tout un tas de choses. Donc, ils ont normalisé d'une certaine manière, ce qui était plutôt une bonne chose, mais techniquement, ils ont rien inventé.
Oui, ça, et même le flux RSS existait, comme tu le disais, hein, depuis très longtemps.
Toute la techno existait déjà. Toutes ces technos, d'ailleurs, existaient déjà dans les années 90. Et on peut leur savoir gré d'avoir
ils ont en tout cas inventé Apple Podcast, qui a été le premier finalement outil sur lequel les gens allaient pouvoir le faire, parce qu'à ce moment-là, hein, souvenez-vous, en 2006, il n'y avait pas encore YouTube, il n'y avait pas encore Spotify, Deezer était en train de naître, donc on était dans un moment où en fait le seul acteur qui était capable en fait de générer du tâche, c'était celui-là.
J'ai trop passé la parole, Benjamin. J'ai quand même juste apporté deux précisions. Une première, c'est sur le format de fichier audio. Et tu as beaucoup cité MP3 parce que c'est le format, notamment l'un des rares formats que c'est traité Apple. Mais on peut mettre n'importe quel type de format audio. On peut même avoir plusieurs.
Ouais.
Par exemple, dans le cas de podcast de Libre à vous, il y a le format MP3, le format OGG, il y en a plusieurs. Et tu as cité effectivement Apple Podcast, Spotify. Il y a aussi des applications libres qui permettent des lecteurs de podcasts. Donc, par exemple, on va suggérer un qui serait très simple si les gens veulent le découvrir, c'est AntennaPod, qui est un outil qui permet de suivre, s'abonner à des podcasts. Alors, soit en les découvrant en mettant des mots-clés dans le moteur de recherche, soit en mettant effectivement le lien quand on va sur une page web. Alors, on va prendre un exemple concret. Si vous nous écoutez actuellement et que vous avez soit un téléphone, soit un ordinateur, vous allez sur libreavoue.org et vous allez voir, il y a marqué abonnez-vous au podcast. Et ben, ça va vous donner un lien. Et si votre ordinateur est bien configuré, ça va vous ouvrir automatiquement une application pour vous abonner. Et effectivement, ensuite, vous pourrez, à la demande, écouter les épisodes, ceux que vous voulez ou tous. On vous encourage évidemment à tous les écouter. Alors, on reviendra tout à l'heure sur, je bouge juste mon micro, on reviendra tout à l'heure sur notamment le rôle d'Apple et les autres acteurs. Juste une petite question. Tout à l'heure, tu viens de la radio, nous on fait de la radio. Tout à l'heure, tu as employé un terme qui est important, c'est podcast natif. Est-ce que vous pouvez expliquer, enfin peut-être toi Karine, la différence qu'il y a entre finalement entre un podcast qui est une réécoute d'une émission de radio par exemple, ou un podcast natif? Qu'est-ce que ça change à la fois pour la personne qui fait et pour la personne qui écoute?
Alors avant, on peut peut-être dire que c'est très franco-français de dire.
Okay. J'allais le dire, mais tu as lu dans mes yeux.
Voilà. Mais aussi pourquoi mais alors du coup, depuis qu'on en a parlé ensemble avec Benjamin, parce qu'on échange du coup beaucoup sur le sujet du podcast ensemble, pourquoi en fait on fait cette distinction? Parce que à mon sens, il faut le comparer par rapport aux autres écosystèmes. En France, on a une radio qui est forte et on le voit ici. On est dans une radio associative. En France, il y a un bon nombre de radios associatives. Il y a des catégories A, B, C, D, etc. Il y a des radios service public, il y a des grandes radios nationales, etc. Il y a de la diffusion FM sur un territoire, et même si effectivement on peut regretter peut-être à des endroits qu'il n'y a pas assez d'émetteurs, etc., de diversité de radio, malgré tout, il y a ça. Et donc, quand les acteurs du podcast francophone émergent, en réalité, quand on parle de 2006, comme l'adoption des usages, elle est en train de se faire, on a un fossé entre ces années 2006-2007 et l'arrivée de ce qu'on appelle le podcast natif. Même s'il y a effectivement toujours eu, depuis l'invention, cette possibilité, il y a toujours eu des podcasteurs. Moi-même, je faisais une web radio en 2007. En 2007, je faisais une web radio, on faisait du streaming et on faisait du podcast. Mais on voyait bien que, oui, certes, il y avait des gens qui téléchargeaient nos podcasts, mais c'était des geeks. On n'avait pas encore un usage, en fait, massif de ça. Donc à un moment, en France, en tout cas ces dernières années, il y a un secteur qui s'est structuré et c'est là aussi que ce terme de podcast natif est apparu. Donc c'est des studios de podcast aujourd'hui qui seront assez connus, des Louis Media, des Binge, des Bababam, des pure players comme Slate, qui du coup sont arrivés avec des propositions éditoriales nouvelles. Puisqu'en fait, avec le podcast, on s'affranchit de la grille radio. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut faire des formats différents, avec des durées qui sont pas homogènes, avec même des épisodes qui potentiellement... On peut s'approprier la radio, mais on peut créer ses propres formats. Et surtout, il y a un positionnement stratégique, souvent, qui est de dire... Alors stratégique, mais parfois ça part d'une intention très personnelle et très naturelle. Il y a un sujet que je veux porter. Je veux porter un sujet d'expertise, un sujet de niche, beaucoup un sujet sociétal. Du coup... Bah, je peux le faire. La radio, mais quand même assez accessible. On a connu finalement un passage au do it yourself dans toutes les autres industries créatives et culturelles. La musique, le studio, le fait de vous-même, le fait de faire soi-même, le home studio pour les musiciens. On n'est plus à la pellicule, on est avec le numérique, etc. Et donc, le podcast, aujourd'hui, ça reste accessible. Le coût même d'investissement dans un micro, un enregistreur, etc., un abonnement à un hébergeur de podcast, c'est accessible. Donc, du coup, en fait, ça ouvre la porte à ces nouvelles voix, des gens qui portent un discours singulier. Ça veut pas dire qu'on n'a pas les mêmes à la radio, mais ça veut dire qu'ils passent par un chemin différent. On a aussi, depuis, on est nourri des réseaux sociaux, du personal branding, des figures comme ça, des influenceurs, même si on retrouve pas l'ADN de l'influenceur dans le milieu du podcast, à la marge en tout cas. Et donc, en fait, on a des gens qui veulent aussi se singulariser, dites, mais nous, on n'est pas la radio. Mais c'est pas pour se mettre en différence par rapport à la radio, c'est pour réussir à exister. Alors qu'aujourd'hui en France, le podcast de replay, donc le podcast de réécoute de la radio, c'est quand même celui qui est le plus consommé de toute l'historique qu'ont les radios, de tout le mass-média que représente la radio. Donc ce terme de podcast natif, il permet de dire, bah nous en fait, on est un peu les nouveaux podcasts, on est un peu les nouvelles tendances, on est un peu les nouveaux sujets, on n'est pas diffusé à la radio. Mais par contre, ceux-là sont obligés de faire la promo aussi de cet usage du podcast. Et donc c'est pour ça, je pense qu'en France, on a cette volonté un peu de différencier les deux termes pour se singulariser et pour exister.
Pour compléter, oui, Karine disait, elle lit dans mes pensées, que c'est très très franco-français cette notion de différence, de dichotomie entre le podcast natif et le podcast de replay. Aux États-Unis, ça n'existe pas du tout. Pour l'anecdote, nous on travaille beaucoup avec un mouvement qui s'appelle Podcasting 2.0, qui a pour vocation d'enrichir fonctionnellement le podcast en rajoutant de la transcription, tout un tas de choses comme ça. Et on leur a demandé de rajouter la possibilité d'avoir un tag qui permet de dire est-ce que ce podcast est un podcast natif, c'est-à-dire est-ce que c'est un contenu original qui a été créé d'abord en podcast, ou bien est-ce que c'est un contenu qui a été publié quelque part ailleurs avant. Alors, on parle de radio, mais il n'y a pas que de la radio. Typiquement, est-ce que le podcast de Hugo Décrypte, c'est un podcast natif ou pas ? Parce qu'il a été publié avant sur YouTube. C'est une question qu'on peut se poser. On voit bien que tout ça est très très culturel et que moi je suis pas convaincu que cette différence, si les anglo-saxons la font pas, il y a bien une raison, et que à l'arrivée on voit bien que sur la vidéo on est passé d'une écoute linéaire à une écoute délinéarisée, enfin une vision plus exactement, et que il va se passer la même chose probablement sur de l'audio. On appelle ça du podcast, on appelle ça ce qu'on veut, peu importe, mais en tout cas c'est une question d'usage. Et que après, est-ce que le contenu que j'écoute en podcast, il a été publié quelque part avant? C'est presque secondaire, j'en
ai
envie
de dire. C'est un peu dans l'écosystème du podcast qu'on différencie quand même ces deux termes, hein, quand même.
Alors, ok, d'accord, mais moi j'en vois quand même une différence importante. C'est dans la façon dont les gens qui font ces émissions, soit de radio rediffusées, soit le podcast, se comportent. Tout à l'heure, t'as employé un terme, c'est public de niche, ils ont quelque chose à dire. Moi j'écoute beaucoup de podcasts. Et il y a une autre chose que je vois tout le temps sur les podcasts, sur la plupart, c'est du jargon à fond. C'est-à-dire qu'on écoute un podcast, qu'on va tomber parce qu'on s'est intéressé à ce sujet-là. J'en écoutais encore un ce matin. Alors, je m'intéresse au marketing. Et franchement, je passe une bonne partie de mon temps.
Ah, bah là, le marketing, je pense que c'est le top du top du top.
Je passe une partie de mon temps à essayer de comprendre ce jargon-là. Et je pense que l'une des différences principales, justement, c'est que
l'adresse.
Nous, quand on fait de la radio, on s'adresse d'abord à la personne qui écoute la bande FM. Donc, on fait un effort de vulgarisation, de compréhension, que les gens qui font du podcast natif, souvent, ils s'adressent à une niche et ils ne pensent pas aux gens qui par hasard vont les découvrir et donc finalement en fait vont devoir s'accrocher pour comprendre quoi. Alors je sais pas quel est votre avis
alors
là-dessus.
Moi je suis absolument d'accord avec toi, je tiens ce discours aux gens que je forme au podcast. Forcément tu l'as compris, mon ADN il vient de la radio, oui. Tu vois, du coup j'explique aux gens, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui le font par mimétisme. Alors pour moi, dans les gens dont tu parles, parce que je pense qu'on va parler de la monétisation après, mais moi quand je forme les gens je leur dis d'ailleurs nos formations on leur explique comme ça, c'est les savoir faire de la radio au bénéfice d'un projet de podcast. Après, c'est aux gens de choisir s'ils veulent faire quelque chose de très pointu. De la même manière qu'il y a des gens qui veulent faire de la radio associative toute leur vie, il y a des gens qui veulent se professionnaliser, etc. Donc évidemment, pour l'audience, on va pas se mentir, sur certaines thématiques et sujets, c'est hyper porteur d'être dans une niche et de créer une communauté. Mais effectivement, t'as raison, ça crée de l'entre-soi. Et moi, je dis aux gens, souvent, mais attendez, pensez, enlevez ces mots jargon. Arrêtez de parler de KPI. Ben non, parlez d'indicateurs clés de performance. Et faites cet effort de pédagogie. Parce qu'effectivement, je suis d'accord, vous allez rassembler beaucoup plus. Et donc après, c'est à chacun d'essayer de trouver ce dosage entre à la fois monter une expertise, parce qu'effectivement, en plus, dans le marketing et dans beaucoup de métiers, en général, même dans toutes les entreprises françaises, on a cette tendance un peu au jargon et à l'entre-soi. Et la radio, elle a pas cet ADN-là. Effectivement, elle est, moi je dis, il y a un côté beaucoup plus inclusif avec l'approche de la radio et beaucoup plus exclusif avec l'approche du podcast. Si votre stratégie, c'est d'être dans l'exclusivité, bah dans ce cas-là, assumez-le à fond. Mais ça veut dire que vous allez laisser à la porte des gens. C'est-à-dire que la barrière d'entrée, elle est élevée. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui feront l'effort, comme ils le font sur d'autres supports, de « je vais écouter, me former, tant pis, bah je vais écouter un podcast, en même temps j'ai Internet pour comprendre. » Mais vous allez laisser des gens derrière vous. Et comme la radio, son ADN, bah c'est en fait un émetteur FM, le fait de pas savoir, de sentir, de comprendre, évidemment, il y a les sondages, il y a des études, mais c'est se dire qu'il y a toujours aussi cette magie un peu de, on tourne le bouton, même si on le tourne plus beaucoup aujourd'hui, mais encore, sur l'autoradio, et on peut tomber aussi sur une surprise, sur quelque chose, qu'après on peut transformer en faisant une habitude d'écoute, etc. Mais il y a toujours deux communautés dans l'audience de la radio, il y a ceux qui sont déjà acquis, et il y a ceux qui sont là autour, et la radio, elle a sa adresse beaucoup plus large. Ça,
exactement.
Je suis complètement d'accord.
Tu veux
juste tempérer un petit peu, parce que évidemment il y a une grosse différence en termes de formation. A priori, quelqu'un qui passe par la radio va être formaté et va être prévenu et va être prévenant.
Qu'est-ce que t'entends par formaté?
Eh ben, ne pas s'adresser à un auditeur n'importe comment. Mais pour autant, on parlait tout à l'heure de liberté. C'est ça aussi qui est bien dans le podcast, c'est que c'est un peu foutraque. C'est qu'il y a des gens qui sont pas du tout formés à faire ça, et puis qui se lancent, et puis qui apprennent sur le tas. Et du coup, ben, ouais, l'indice de qualité, je sais pas si on peut parler d'indice de qualité, mais en tout cas, il y a beaucoup plus de choses, et il y a beaucoup plus de ça génère aussi beaucoup plus de diversité, une uniformisation qui est nettement moindre dans le podcast, et qui fait que ça crée la richesse du podcast aussi.
Je suis tout à fait d'accord avec ça. Simplement, là, je pense que le propos que j'avais en tête, c'est celui de quelque chose qui est un jargon technique et des choses qui resserrent un peu. Par contre, effectivement, il y a aussi parfois, on retrouve les marqueurs parfois de la radio associative. C'est-à-dire, dans une radio associative, il y a un cadre qui est beaucoup moins formel parfois que dans une radio privée, etc. Et donc, il y a ce truc de dire... Ok, ben en fait, je peux le faire moi-même, je peux le faire à mon image, et donc ce truc-là est intéressant. On a chez Elson, on a pas mal mené de curation, et donc on écoutait plein de podcasts qui se lançaient, des podcasts amateurs, des podcasts un peu plus pro, et quand on les passait en comité d'écoute d'une vingtaine de personnes, il y avait parfois des trucs qui étaient frappants. C'est la voix d'une personne qui a un regard singulier sur un sujet, et en fait ça ne trompe pas, mais comme souvent la radio, ça ne trompe pas la voix bien souvent. Et moi je dis souvent, il y a des gens qui me demandent pourquoi on fait pas beaucoup de coaching vocal dans nos formations. Je dis souvent, c'est plus un sujet, l'esthétique de la voix. À moins d'avoir un problème d'élocution, etc., qui peut se travailler avec un orthophoniste ou autre. Mais en fait, aujourd'hui, on n'a plus ce code de l'esthétique de la voix. La voix, c'est la personne qui s'exprime. Et si une personne, elle est alignée avec ce qu'elle dit, il n'y a plus de mauvaise voix, en fait. Et le podcast, il révèle, pas souvent les nouvelles voix du podcast, mais il révèle cette chose-là. Et ce qui est intéressant aussi de voir, c'est le chemin que font certains de ces podcasteurs et de ces podcastrices. C'est qu'effectivement, au départ, on se lance, on essaie, on retente autre chose, etc. On essaie de s'arrêter en chemin, parce que c'est ingrat en plus d'être son propre média. On essaie de fabriquer un objet. En plus, il faut faire de la communication autour, etc. Mais voilà, ça chemine. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment quelqu'un passe de « je fais » à « est-ce que je deviens podcasteur ?» ou « est-ce que je deviens auteur et autrice ?» aussi. On est dans cet écosystème, en plus, à un moment où on interroge cette question-là, notamment vis-à-vis du financement de certains créateurs. Et qu'est-ce que c'est que d'être une auteure ou une autrice de podcast ou de radio? Et c'est une question aujourd'hui qui se pose aussi.
Bah justement, on va en parler, parce qu'effectivement, je voulais juste préciser que je ne faisais pas une critique du podcast, parce que je suis un très gros consommateur de podcast, et je suis totalement aligné avec ce que vient de dire Karine. Il y a vraiment des voix, et je ne parle pas de la voix qu'on entend, mais des positionnements.
L'expression singulière et particulière d'une personne.
Voilà. Et comme on dit aux gens quand on invite à l'émission de radio, qui disent « Oh, mais je suis pas à l'aise, je vais bafouiller, etc. » On leur dit « Mais non, vous inquiétez pas, vous allez parler de votre expérience, de votre vécu, de ce qui compte pour vous, donc c'est de votre histoire, et que c'est ça qui va intéresser les gens. » Donc c'était pas une critique sur le podcast, c'est juste un constat simplement sur un certain nombre de podcasts, effectivement, qui ciblent une plus particulier, qui ne pense pas aux autres, quoi. Avant la pause musicale, on va commencer un petit peu à parler justement des acteurs du podcast, donc les personnes qui créent, les personnes qui écoutent. Il y a un truc qui est vachement bien, je crois que tu l'as dit tout à l'heure, toi, Benjamin, dans le podcast, c'est qu'effectivement, on prend un micro, un outil d'enregistrement, on prend une plateforme, ou même on peut se créer son site web, mais une plateforme de genre. En fait, pour se lancer dans le podcast, d'un point de vue technique en tout cas, c'est très simple. Enfin, c'est pas un gros investissement, en fait. Il n'y a pas de barrière à l'entrée.
La barrière à l'entrée aujourd'hui, il y en a pas, puisqu'il suffit d'avoir un téléphone portable.
Ah oui, c'est vrai qu'avec le téléphone, encore plus
simple. Donc, avec un téléphone portable.
Karine n'est pas forcément tout à fait d'accord, mais elle le dira après. Vas-y, Benjamin.
Je sais qu'elle n'est pas du tout d'accord, mais comme elle est très polie, elle me coupe pas la parole. Mais aujourd'hui, il y a des podcasts qui sont créés avec un téléphone portable. Alors, on utilise parfois les kits piétons ou des choses comme ça pour que qualitativement ce soit pas trop pourri, mais avec un téléphone portable, c'est tout à fait possible, et on peut faire plein de choses.
Allez, un téléphone portable plus un accessoire.
Plus un accessoire, d'accord.
Alors quel accessoire ? Un micro supplémentaire ?
En fait, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on fait son podcast tout seul, ou on fait que, ou on parle soi et puis on interviewe personne, ou est-ce qu'on fait, ou est-ce qu'on interviewe quelqu'un ? Et donc effectivement, il y a pas mal d'accessoires qui sont développés pour mettre sur un téléphone. C'est quand même besoin de faire ce geste, je parle, tu parles, et approcher le micro de la bouche.
C'est, si on fait un podcast d'interview, mais ce qui est pas nécessaire, on peut faire aussi un podcast de monologue où on parle tout
seul. Bien sûr, mais il y en a pas beaucoup. C'est pas le plus commun des podcasts, mais oui, c'est possible. Après, c'est toujours pareil, c'est comme avec n'importe quel outil, encore faut-il savoir le placer, l'utiliser, se dire ok, comment je transfère les fichiers de mon téléphone, etc. C'est pas le kit, en tout cas le plus commun pour un podcasteur. La plupart du temps, on va plutôt investir dans un enregistreur numérique, peut-être un micro additionnel avec un enregistreur numérique, voilà. Mais effectivement, on est quand même sur des prix, même avec un kit comme ça, avec enregistreur micro, ça va pas dépasser 450 €. Donc ça reste quand même raisonnable. Après,
450 €, c'est déjà très qualitatif, parce que aujourd'hui, pour 50 €, t'as un enregistreur ou t'as un micro qui va faire un gap significatif en termes de qualité.
Là, je parle de quelqu'un qui veut se lancer dans soit un podcast en extérieur, parce qu'il y a aussi cette question-là, soit un podcast d'interview, et qui se déciderait à avoir un projet, en fait, un peu au long cours. C'est pas la première chose qu'on fait. Nous, en formation, on dit, mais non, pour l'instant, n'achetez pas de matériel. Vous ne savez pas quel va être votre projet, comment vous allez le réaliser, dans quelles conditions, si vous n'allez pas faire finalement vos interviews à distance, auquel cas, est-ce que c'est un téléphone, est-ce que c'est votre ordinateur, est-ce que c'est un micro USB. Enfin, il y a plein de configurations possibles. Évidemment, un smartphone, on peut faire ses premiers essais avec. Et à partir du moment où on veut une meilleure qualité de son, un meilleur confort aussi pour réaliser, eh bien, on peut se tourner vers un kit un peu de base. Mais en fait, en réalité, la barrière technique, bon, évidemment, pour chacun, il peut y avoir un coût financier. Mais c'est pas l'essentiel. L'essentiel, en tout cas pour réussir à trouver un peu une audience, c'est quoi on parle, c'est quoi ce podcast, ça va être quoi cette proposition aussi éditoriale, de sujet, de c'est quoi la promesse en fait. Parce que sinon la technique c'est l'outil qui va permettre, qui va même sublimer peut-être le podcast, peut-être même ça fait des rebonds sur le concept même du fait des choix techniques qu'on fera, etc. Mais avant tout, ça va être quoi le propos.
Oui, mais même là encore, sur la promesse, on a le droit de changer d'avis.
Bien sûr.
Le podcast, c'est vraiment le médium de la liberté. C'est-à-dire que je peux faire ce que je veux, je peux changer de format, je peux changer de durée, je peux changer de fréquence, je peux changer de sujet, je peux faire absolument tout ce que je veux, je peux changer de micro, bien évidemment.
Bien sûr.
Alors, on va faire une pause musicale parce que sinon on va dépasser le temps. Je vous vois tous les deux. En plus, c'est une pause musicale choisie par Benjamin. Alors, là, elle est issue même de nos archives, et c'est un morceau que j'aime beaucoup. Hein. Donc, nous allons écouter Last Dance par Zero Project. On se retrouve dans environ 3 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune. Yeah.
Nous venons d'écouter Last Dance par Zero Project, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution CC BY.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
Alors, nous allons poursuivre notre discussion qui s'est poursuivie pendant la pause sur le thème donc du podcasting avec nos invités, hein, Karine Fillot, fondatrice d'Elson, et Benjamin Bellamy, fondateur et dirigeant de la société Ad Ores et de Castopod, dont on parlera tout à l'heure, hein, bien sûr. Juste avant la pause musicale, on parlait à des personnes qui créent les contenus, donc qui créent les podcasts, et de la barrière technique à l'entrée, et puis Karine rappelait l'importance quand même du projet, de la voix qu'on voulait porter.
Ou la voix des autres.
La voix des autres, effectivement, si on fait, voilà, il y a des, donc on va continuer là-dessus, on va aussi questionner la découvrabilité des podcasts, parce que ça c'est un enjeu, ça a sans doute évolué aujourd'hui, mais c'est quand même trouver un podcast qui nous intéresse ou se faire connaître, et puis la question aussi de la monétisation, parce que jusqu'à présent on n'a pas parlé de cet aspect-là, mais il y a des gens qui font des podcasts aussi pour le monétiser, pour gagner un peu d'argent, ce qui n'est pas la majorité sans doute des gens, ou enfin, en tout cas mon intuition. Donc sur la première partie, on va dire, sur cette partie, voilà, le travail des gens qui créent des podcasts, trouver leur voix, trouver la voix des autres, quels conseils vous donneriez, quelles astuces, quel cheminement ces personnes doivent faire quand elles se lancent dans une idée de podcast?
Alors, il y a deux manières de voir la conception du podcast. Soit ça part de l'envie personnelle, et donc c'est quoi votre intention personnelle. Ensuite, on arrive souvent à croiser ça avec une thématique, des sujets. Soit on est dans une approche journalistique, et donc de sujet, on passe à ce qu'on appelle un angle, donc une manière précise d'aborder le sujet. Souvent, on croise ça avec un casting, avec des personnes dans un podcast très répandu, qu'on va appeler le podcast d'interview, le podcast, par exemple, d'entretien. La personne qu'on interviewe, hein, est souvent notre matière, on le voit même ici, au sein de cette émission, voilà. Donc souvent, on croise ça, et puis on se dit, c'est avant tout ça qui compte. Et puis, on verra qui on trouve en chemin en termes d'audience. Une autre option est de dire, je pars finalement de la fin de l'entonnoir qui sont, je veux viser une communauté d'audience. Donc, je décris finalement, comme on le ferait en bon marketing, des personas, qui sont ces personnes, comment j'imagine leur centre d'intérêt, etc. Et donc là, en fait, on va piloter plutôt la conception du podcast par la stratégie des publics et qui est souvent liée à un thème ou un sujet. Donc c'est là où on aborde un peu plus la question de la niche, sachant que les deux peuvent se croiser et qu'à un instant T, un sujet qui peut être de niche dans le temps peut devenir un sujet beaucoup plus mainstream. On le voit bien, les podcasts qui ont émergé sur la question du féminisme, mais même sur beaucoup de sujets, je pense à la géopolitique ou la stratégie de défense, à des podcasts qui existent depuis parfois certains longtemps, je pense au Collimateur, et qui aujourd'hui, avec toute l'actualité de la géopolitique, etc., devient un podcast assez en vue et assez écouté. Donc voilà, vous pouvez vous dire, et est-ce que je vais me lasser aussi? C'est quoi la taille du sujet? Est-ce qu'à un moment donné, j'ai fait le tour aussi?
Et aussi peut-être la récurrence. Est-ce que c'est un podcast mensuel, hebdo?
Alors ça, c'est la fréquence, ouais. Effectivement. Après, il y a la récurrence, donc aussi avec la fréquence de diffusion. Mais moi, j'aime bien dire à nos apprenants et apprenantes, j'aime bien leur poser cette question. Posez-vous cette question, votre podcast a-t-il une fin? Et qui perdra l'appétit en premier? Vous ou l'auditeur? C'est-à-dire qu'en fait, il y a deux formes de podcast. Il peut y avoir un podcast, et c'est plus porteur, un podcast de flux, c'est-à-dire un peu comme une émission de radio. On a rendez-vous régulièrement, et donc en fait, on sait pas forcément quand est-ce que ça va s'arrêter. On imagine, quand on se lance, en plus, c'est pas pour imaginer s'arrêter. Ou alors, il peut y avoir un podcast avec un ADN un peu plus patrimonial. Et donc là, on va décider peut-être d'un certain chapitrage, d'un certain nombre d'épisodes, d'une certaine histoire. C'est-à-dire qu'il y a des histoires, à un moment donné, qui se terminent. Il y a des sujets, documentaires, etc. Voilà. Et donc là, c'est d'autres formes de podcast, peut-être d'autres formats aussi. Et ça ne veut pas dire que on peut pas enchaîner peut-être une série patrimoniale à une autre dans un même flux de podcast, etc. Mais je leur dis ça parce que le fait de pas voir la fin, on n'arrive pas à voir parfois quel est le premier objectif. Et donc déjà, peut-être le premier objectif quand on se lance, c'est de faire une maquette. Voilà. Ce qui est sûr, c'est que le podcast de flux avec une promesse récurrente est beaucoup plus porteur pour l'audience comme podcast patrimonial.
Et d'ailleurs, cette question, elle était présente à la création du podcast. C'est-à-dire que dès le début, dans les métadonnées des podcasts, c'est-à-dire dans les métadonnées, il y a le titre, ce qu'on appelle show notes, c'est-à-dire la description, le résumé. il y a un champ spécifique qui dit si le podcast est épisodique ou sériel, serial en anglais, et qui permet de dire, en fait, la raison première de ce champ, c'était de dire, est-ce que ce podcast, ben, je vais commencer par le dernier parce que y a pas d'intérêt à remonter un peu dans le temps parce que c'est une revue de presse ou quelque chose qui est vraiment construit dans la durée et sans fin, comme tu viens de le dire, ou bien est-ce que je raconte une histoire avec un début, un milieu et peut-être une fin, et dans ce cas-là, il faut que je puisse commencer par le début. Et donc, il y avait cette nécessité d'expliquer et de dire aux applications d'écoute, afficher le tout premier épisode, c'est-à-dire le plus ancien en premier, ou bien afficher le dernier parce que c'est le plus récent qui est le plus pertinent.
Et aujourd'hui, on est bien embêté avec cette question parce qu'en fait, à moins d'être une marque ou une marque média très forte qui arrive à faire exister un podcast alors qu'il s'est arrêté, ce qui est plus porteur, c'est plutôt d'avoir un podcast. Parce qu'une fois, comprenez que une fois que les gens sont abonnés à un podcast, donc ils se sont abonnés, donc sur leur téléphone, ils reçoivent une notification sur l'application de leur choix qui leur dit « Eh tiens, il y a le nouvel épisode, etc. » Donc ce chemin déjà, il est long pour arriver dans le podcast. Donc si vous faites un flux et qu'il s'arrête au bout d'un moment, si vous n'avez pas la force de frappe pour médiatiser votre podcast, c'est compliqué. Et donc en fait, aujourd'hui, même certains gros studios se disent « Comment je peux essayer de créer un gros chapeau, c'est-à-dire un titre de podcast très large, et sur lequel finalement, je vais adresser quand même des sujets qui ont, ou des séries qui vont avoir un ADN un peu commun, mais qui peuvent être très différentes parce que je capitalise sur le même flux RSS. Et comment je rends lisible ça? C'est pour ça qu'aujourd'hui, la question de la titraille, ce qu'on appelle la titraille, c'est le fait de titrer des épisodes, etc., de rendre lisible, parce que c'est hyper important. Que font les gens la première fois qu'ils tombent face à un podcast? Ils le regardent avant de l'écouter. Et donc, la lisibilité du titre, du chapitrage, etc., va être importante pour comprendre j'ai affaire à quoi, en fait, là, dans ces différents contenus, dans ces séries. Parce qu'effectivement, c'est plus porteur d'avoir quelque chose qui se poursuit. Et du coup, c'est très embêtant quand on est créateur. Parce que parfois, moi je suis en ce moment dans cette problématique-là, parfois c'est très porteur de faire, c'est une série documentaire, et ben forcément une série documentaire, à la fin, au bout d'un certain nombre d'épisodes, ça s'arrête. Donc, donc, il y a peut-être des pistes aussi autour du multiformat, parce que même si on le dit, et je suis entièrement d'accord, je dis souvent ça, le podcast c'est un espace de liberté, vous n'êtes pas, justement, vous n'avez pas les contraintes de la radio, donc si vous avez envie de faire plusieurs séries dans un flux, si vous voulez faire du multiformat, si vous voulez faire un billet court et la semaine suivante un entretien, vous avez cette, à partir du moment où vous trahissez pas la promesse générale et de qui vous êtes aussi, ça n'a pas d'importance. Donc il y a cette liberté là et donc le multiformat peut-être d'épisodes, peut-être même plusieurs podcasteurs dans un même podcast, qui sait, peut-être qu'ensemble on est plus fort. Enfin, il y a encore des choses à créer parce que comme aujourd'hui on est dans finalement ce qui est à la fois porteur, on va y venir, qui est un écosystème ouvert grâce à ce flux RSS, mais en même temps, quand on est podcasteur et qu'on est tout seul dans son flux, et qu'il faut produire et qu'il faut on est obligé de produire pour alimenter le flux, c'est aussi compliqué.
Juste avant de laisser la parole Benjamin, il y a quand même un truc que moi j'apprécie dans les podcasts, c'est la cohérence, enfin la durée qui est à peu près toujours la même, c'est-à-dire sur un podcast, hein. C'est-à-dire que par exemple, que comme ça je vais pouvoir le choisir, par exemple quand je vais faire de la course à pied, je vais choisir un podcast dont je sais que la durée va être entre 50 minutes et 1 heure par exemple, parce que ça va correspondre à mon entraînement, et ça j'aime bien, et j'ai remarqué que la plupart des podcasts
respectent, j'aime bien être rassuré.
Voilà, j'aime bien être rassuré, ce respect de durée. Mais voilà,
après souvent c'est quand même à moins d'être dans un podcast où c'est déjà très resserré en termes de sujet, mais quand même souvent c'est le titre qui est porteur, c'est le sujet souvent.
Oui,
quand on arrive face à un instant T sur une liste d'épisodes et qu'on a l'embarras du choix, souvent c'est quand même le titre, parfois c'est le nom de la personne qui est dans le titre.
Alors Benjamin, je te laisse réagir et après on parle de découvrabilité justement.
Oui, il faut éviter d'appeler son podcast mon podcast hebdomadaire parce que en général ça garantit pas une bonne découvrabilité, mais en fait justement moi je voulais en profiter pour rebondir et revenir faire la découvrabilité, parce qu'on a parlé donc de différence entre les podcasts en série et les podcasts épisodiques. Ce qu'il faut bien comprendre par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que pendant 15 ans, les podcasts ont été portés par Apple Podcasts, et du coup, c'est un peu Apple Podcasts qui était le seul moteur de découvrabilité. Et c'est un peu Apple, enfin c'est même totalement Apple, qui a décidé qu'est-ce qu'était un podcast découvrable, qu'est-ce qui faisait qu'un podcast pouvait être vu, qu'est-ce qui faisait qu'un podcast était dans son top 200, et Apple a imposé ses conditions à tout le monde, et tout le monde les a acceptées sans rechigner, et c'était avoir une belle image, bien carrée, je le disais, 2400 pixels, et puis avoir une régularité sans faille. Et aujourd'hui, le discours unanime de tous les gens qui bossent dans le podcast, c'est premier conseil, c'est de dire il faut que vous soyez régulier. Ce en quoi moi, je m'inscris en faux et je dis non, il faut, faites ce que vous voulez. Ne trahissez pas votre audience, certes, mais ce besoin de régularité, en fait, à l'origine, c'est quand même Apple qui l'a imposé à tout le monde et qui a dit, eh ben, si vous avez rien publié depuis un mois, vous n'existez plus. Et aujourd'hui, on a quand même un truc qui est incroyable, c'est qu'il y a une richesse phénoménale dans le podcast. Il y a énormément de podcasts, en particulier ceux qui sont de type série, qui sont passés dans les oubliettes, qu'on ne voit plus du tout, parce que Apple a décidé qu'un podcast qui ne publiait plus depuis plus d'un mois, eh ben, n'avait plus le droit de citer et n'était plus visible. Et comme Apple a, en plus, a jamais été très très fort en moteur de recherche, eh ben, on les voit pas, on les trouve plus du tout. Ça a changé depuis 5 ans parce que on a un buzz du podcast depuis à peu près 5 ans et il s'est passé beaucoup de choses. Je pense que le point de départ, c'était le podcast Serial qui a fait 230 millions de téléchargements et qui a un peu rebattu toutes les cartes. Mais
podcast anglophone.
Toujours est-il que aujourd'hui, Apple Podcast, on regardait ce matin avec Karine, c'est en gros 37% de part de marché. Ça paraît énorme.
Enfin, de part d'écoute,
oui. Ça paraît énorme. Sauf que, bah, il y a cinq ans, c'était 100%, ou quasiment 100%. Et donc, aujourd'hui, continuer à obéir aux règles d'Apple, ça me paraît pas être forcément la meilleure stratégie. En tout cas, c'est pas la seule. Et la deuxième plateforme aujourd'hui, c'est Spotify. Je suis pas un grand admirateur de Spotify, mais pour le coup, en termes de découvrabilité, ils bossent, je trouve, de mon point de vue personnel, beaucoup mieux qu'Apple, puisque eux, ils sont capables d'aller chercher des contenus un peu plus anciens, et puis de faire des recommandations un peu plus poussées que de dire, eh ben, dans le top 10 de cette semaine, vous avez les grosses têtes, Guillaume Meurice, 10 choses à savoir,
l'after sport,
et puis Hugo Décrypte, ouais. Enfin, voilà, j'ai rien découvert, en fait. C'est de la découvrabilité niveau zéro.
Alors, moi, je voulais juste préciser sur Apple. Peut-être qu'il y a sans doute ce discours autour du fait que Apple a des indices qui fait que ça fait baisser s'il n'y a pas de régularité. Mais moi, j'en parlais plutôt du point de vue du podcasteur avec son audience. Effectivement, c'est quelque chose la plupart du temps qu'on autoproduit, qu'on fait soi-même. Mais est-ce que ça va créer la régularité? Alors, attention, quand on parle de régularité, ça ne veut pas dire forcément faire une émission chaque semaine. Mais c'est se dire que en étant juste présent sur votre flux RSS avec ce contenu, en fait, votre promesse, elle est réitérée et vous créez ce lien. C'est plutôt un rapport de lien avec une audience et ça vous impose aussi, du coup, un certain rythme de production. Et je dis souvent, ouais, si vous vous sentez pas, idéalement, 15 jours, c'est déjà pas mal, mais c'est caser une émission, enfin un podcast, un épisode en 15 jours, c'est pas évident, mais commencez par un mois, essayez d'arriver à 3 semaines et puis, en fonction aussi de vos sujets, de est-ce que le podcast, il est facile à produire ou pas, est-ce que vous êtes dépendant d'autres personnes si vous devez le fabriquer ou même interviewer. Mais c'est plutôt dans ce rapport-là, en fait, de dire au moins, si vous êtes présent juste avec votre épisode, avec une certaine régularité, vous maintenez le lien. Et vous n'êtes pas obligé de faire tout un tas de communications, de présence sur les réseaux sociaux. Vous êtes déjà là dans votre flux RSS et ça peut suffire. Mais au moins, ce lien, il est établi. De la même manière, souvent, je leur dis, pour maintenir ce lien, arrêtez de parler à la fin, il faut mettre des étoiles, des machins, s'abonner-ci. Moi, je leur demande, si vous avez un appel à l'action à faire, peut-être c'est une newsletter, votre page internet, créer ce truc à côté, mais où vous êtes en direct avec votre audience.
Oui, mais alors, si on parle de lien, on parle plus vraiment de découvrabilité, parce que si on a gardé le lien, bah, les gens n'ont plus besoin de nous découvrir, ils nous connaissent déjà. Ouais, en termes de découvrabilité, c'est-à-dire aller trouver de nouveaux auditeurs, et en particulier pour un podcast de série qui s'est terminé, j'aime bien la métaphore de James Creedland, qui est un journaliste spécialisé dans le podcast, qui a une newsletter quotidienne qui s'appelle Pod News. Vous pouvez retrouver sur podnews.net, et qui dit, on a quand même un paradoxe dans le monde du podcast, c'est que Apple a créé un écosystème où c'est comme si on avait une bibliothèque dans laquelle on va retrouver tous les livres qui ont été édités et sortis il y a 2 mois, depuis 2 mois, et tous ceux qui ont plus de 2 mois, eh ben, ils ont été passés au pilon parce que, ben, voilà, ils sont plus intéressants. Il y a une richesse incroyable dans le podcast, et c'est pas parce qu'un podcast ne publie plus et, entre guillemets, est mort, eh ben, qu'il a pas d'intérêt et qu'il a pas de valeur. Au contraire. Et pour nous, l'enjeu de la découvrabilité, il est aussi là. C'est de dire, eh ben, moi, je suis intéressé par un sujet. Il y a des podcasts sur tout parce que la décentralisation du podcast et le fait que ce soit un média très très ouvert fait que il y a pas d'algorithme, il y a pas de censure, donc il y a des podcasts qui parlent vraiment de tout. Et aller trouver un podcast qui m'intéresse aujourd'hui, c'est compliqué. Et l'enjeu, il est là. Il est vraiment là. C'est de dire, ben, comment est-ce que je vais trouver un podcast qui m'intéresse dans ma langue, sur une durée particulière, sur un sujet qui a été évoqué ou.
Alors très rapidement, Karine.
Non, ce que je dis, c'est que nous, le départ du projet Elson, c'est celui-là. C'est le fait de dire, il y a des podcasts qui tombent dans l'oubli. Il y a des podcasts qui sortent aussi du web, parce que pour un moment, bah, payer son flux RSS pour un podcast qui a vécu, etc. Et on était là, on dit, mais ça a de la valeur. Ça a de la valeur de découvrir notamment des objets patrimoniaux, mais pas que. Et donc, justement, il fallait trouver cet équilibre. Et donc, quand on a lancé le premier prototype d'Elson qui réunissait 2000 utilisateurs, on avait en parallèle un comité d'écoute. Et donc, les gens nous suggéraient des podcasts. Et alors, on faisait de la curation humaine. On testait, du coup, cette curation sur notre site avec un player. Les gens s'inscrivaient, ils recevaient une newsletter de recommandations, le son du jour pour ceux qui voulaient découvrir un podcast chaque jour, une playlist pour essayer de faire croiser aussi, c'est-à-dire de passer, finalement, d'essayer de faire en sorte d'amener de la transversalité entre ces flux RSS. Et en ayant aussi cette connaissance de la radio pour dire, ok, qu'est-ce qu'ils ont en commun, qu'est-ce qu'ils ont de différent, est-ce que justement, quand on fait une curation sur une playlist de podcast ou une playlist d'épisodes de podcast, est-ce qu'on parle du plus pointu d'abord, du plus général, etc. Et qu'est-ce que serait cette expérience d'écoute et de découverte des podcasts. Et donc, ça veut dire que ça nécessite, du coup, au bout d'un moment, d'arriver à pouvoir qualifier, sourcer, et ça rend compte, la curation humaine, à un moment donné, sur cette découvrabilité qu'on peut faire d'une certaine manière, mais au bout d'un moment, on a cette barrière, qui est une barrière, du coup, plus technologique, et celle aussi de la masse, du corpus de podcasts, même si on est loin des chiffres aux États-Unis, mais il y a quand même beaucoup de podcasts francophones. Et c'est des problématiques, du coup, communes qu'on a avec Benjamin. On parlait en début d'émission de transcription aussi. Et donc il y a cet enjeu-là, d'un moment donné, d'arriver à trouver les ressorts qui vont faire que, par la technologie du transcript, de l'analyse sémantique, on va pouvoir, du coup, savoir mais de quoi ça parle, en fait, de quoi parlent ces contenus, et aussi d'essayer de délivrer une expérience d'écoute pour les auditeurs. Parce que, comme le disait Benjamin, l'expérience d'écoute d'Apple, elle est conditionnée au bon vouloir d'Apple et de ses règles. Spotify, c'est la même chose, etc. Et donc, il y a encore la place aujourd'hui, sans doute, pour une plateforme de découvrabilité des podcasts, et qui jouent avec d'autres codes, d'autres règles, et qui prennent en compte à la fois, finalement, les contenus et à la fois les usages des auditeurs.
Non, avant de te laisser réagir, parce qu'il reste 5 minutes avant les questions finales, donc on va pas parler de monétisation, ça n'aura aucune chance, mais par contre on est quand même une émission qui parle de liberté informatique, on vient de nous parler d'Apple, de Spotify, et je le comprends entièrement, mais toi Benjamin, je veux qu'on enchaîne, et ça va être relativement court,
Castopod,
malheureusement, parce que voilà,
Castopod.
Sur écosystème versus écosystème ouvert, et surtout, voilà, quelle est la place des solutions libres et des plateformes libres dans le podcasting. Et ça va être très court, j'en suis désolé. Hein. Mais on fera peut-être plus en détail dans une seconde émission. Vas-y.
Alors, Karine parlait à l'instant de patrimoine et de... ben moi, je suis podcasteur, j'ai fait un podcast, il est fini. Et comment est-ce que je fais pour le garder en ligne si j'ai pas envie de continuer à payer 10 euros par mois? C'est une des raisons pour lesquelles nous, on a développé Castopod, donc castopod.org, qui est une plateforme d'hébergement de podcasts. On n'a pas été très très originaux dans le sens où on a pris un modèle qui nous semblait fonctionner plutôt pas mal, qui était celui de WordPress. WordPress qui permet de publier des sites des sites internet de contenu, mais spécifique au podcast. Donc Castopod, ça permet à n'importe qui de télécharger la solution et de s'auto-héberger son podcast, et pour le coup un coût vraiment réduit, voire gratuit si on a déjà son serveur. Et donc l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que le podcast qui, on l'a dit, je ne sais pas si c'était très clair, mais en fait, la technologie du podcast date des années 90. Elle n'a pas évolué depuis, ou très 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 peu. Et dans les années 90, le web était totalement décentralisé. Il n'y avait pas de plateforme fermée comme il y a aujourd'hui. Aujourd'hui, on est sur Facebook, ben on est dans Facebook, on n'est pas sur Internet. On est sur une plateforme fermée. Quand on est sur YouTube, ben on est enfermé sur YouTube, c'est-à-dire que Google est le seul qui décide de quel est le contenu qui a le droit d'être là et quel est le contenu qui va être visible, qui va être recommandé. Sur le podcast, on n'a pas ça du tout, parce qu'on peut choisir son hébergeur. Karine en a cité quelques-uns. Je rajouterai.
Il y en a d'autres, on peut citer les
Audio, ouais, parce que ils sont très sympas. Ils sont très sympas, ils sont aussi très bons. Hein. Ils sont pas
très sympas. Et c'est
des plateformes
françaises aussi.
Et ce sont des sociétés françaises, tout à fait. Donc on peut choisir sa plateforme d'hébergement, et donc potentiellement, si on se fait supprimer son podcast d'une plateforme d'hébergement, eh ben, on peut très bien aller chez une autre sans perdre son audience. On peut, ses auditeurs peuvent aller sur une plateforme d'écoute. On a cité Apple et Spotify parce que, bah, aujourd'hui, c'est ceux qui ont de l'argent, mais il y en a plein
d'autres. Podcast Addict, aussi par un français.
Il y a Podcast Addict, il y a Pocket Cast,
République Podcast, il y en a toute une flopée.
Ouais. Antennapod,
il y en a plein. Il y en a des open source, il y en a pour téléphone, il y en a pour, il y en a vraiment plein. Et du coup, le fait que ce soit décentralisé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une plateforme unique où on peut écouter des podcasts et qu'on peut, en tant que créateur de contenu, en tant qu'auditeur ou auditrice, on peut changer, ben, fait que on a une liberté de ton, une liberté de parole qui est finalement devenue assez rare aujourd'hui sur Internet. Le simple fait de pas avoir d'algo de recommandation dans le podcast, en tout cas d'algo unique, eh ben, pour moi, c'est une richesse incroyable.
C'est pour ça qu'on fait souvent le parallèle avec les blogs. Mais on va dire que ce serait les blogs qui sont faits par des créateurs sans qu'on y passe dessus un algorithme ou un moteur de recherche à la Google, en fait. Ils sont là, ils existent, ils ont leur hébergeur, ils ont leur prise de parole. Et si on les cherche, on peut les trouver. Et donc, aujourd'hui, en fait, cet enjeu autour de la découvrabilité, c'est une problématique qui est attaquée par plein d'acteurs. Évidemment, des plus gros aux plus petits, aux services publics. Un peu moins aujourd'hui les radios, parce que étant souvent les radios des marques fortes, elles ont moins cet enjeu-là. Elles ont plus souvent un enjeu de marque et de positionnement stratégique sur les audiences. Mais c'est aujourd'hui clé, parce que quiconque se lance, ne serait-ce que dans l'écoute d'un podcast, dans essayer de trouver sur un sujet, il y a encore beaucoup de freins et il faut souvent investir beaucoup de temps pour trouver le podcast qu'on cherche. Mais par contre, une fois qu'on l'a trouvé, on peut y être complètement accro.
Alors, merci. On refera une émission parce qu'il y a des sujets qu'on n'a pas abordés. La partie, dernière partie, on l'a abordé trop rapidement, mais vous étiez passionnante et passionnante. Mais juste quand même, dernière question. Alors vraiment, en deux minutes max, chacun et chacune, c'est, si vous le souhaitez, hein, quels sont les éléments clés que vous aimeriez faire passer aux personnes qui écoutent en deux minutes max? On va commencer par Benjamin.
Oui, ben en fait déjà on est très content d'être ici et c'est pas un hasard si on est dans l'émission Libre à vous, parce que encore une fois l'écosystème du podcast est libre et pour nous c'est important et il faut le défendre et en particulier moi j'invite toutes les podcasteuses et tous les podcasteurs à cesser de dire mettez-nous des étoiles sur Apple Podcast, Karine l'a dit. Pourquoi? Parce que c'est mettre déjà tous ses œufs dans le même panier et puis c'est confier son audience, ses contenus à un GAFAM. Et je pense que stratégiquement, on voit où ça a mené sur d'autres types de contenus et c'est pas le conseil que je donnerais en tout cas. C'est compliqué et c'est pour ça qu'on y travaille et que on y travaille d'arrache-pied et on a pas du tout parlé de podcast 2.0 qui pour moi est l'enjeu majeur des mois et des années qui viennent, qui est, c'est très gentil de dire oui, il faut utiliser des logiciels libres et open source et ne pas faire confiance systématiquement aux GAFAM, mais on fait quoi? Podcast 2.0 est une des réponses possibles à ça, et si vous allez sur newpodcastapps.com, vous aurez accès à des applications qui sont, alors pas toutes open source, mais qui en tout cas sont décentralisées.
Et moi, je dirais, n'opposez pas radio et podcast, en fait. C'est hyper complémentaire. Et je pense que la radio a des talents, le podcast a des talents, et qu'en fait, les deux ont vraiment des raisons de se rapprocher. Évidemment, c'est, alors peut-être que je dis ça aussi parce que moi je viens de la radio associative, j'ai commencé par là, mais aussi parce que je vois qu'en fait, il y a quand même une grande différence. La radio FM, elle est régulée avec un ARCOM, anciennement CSA, etc. Et de l'autre côté, le web, effectivement, c'est un écosystème qui est complètement ouvert, mais en fait, les deux ont des intérêts. Et aujourd'hui, pour se professionnaliser, c'est intéressant de penser à ça. Voilà. Potentiellement, quand on est à la radio, on peut avoir un statut d'auteur, on peut aussi se professionnaliser avec d'autres personnes et pas être tout seul dans son coin. Bon, et en même temps, le podcast amène une nouvelle fraîcheur, de nouveaux ADN sur les contenus sonores. Donc c'est intéressant et c'est intéressant que les gens se croisent. Donc c'est pour ça qu'on est ravis aussi d'être ici.
Ben parfait, je pense qu'on fera une nouvelle émission dans ne serait-ce que pour parler de podcasting 2.0. J'invite les personnes qui sont intéressées au podcast et qui sont en région parisienne, vous pouvez aller au Paris Podcast Festival, donc les 13 et 14 octobre 2023 à la Gaîté Lyrique. Et bientôt, il y aura aussi Podcastre, donc à Castres, où Benjamin Bellamy sera. Dans le Tarn. Est-ce que tu as les dates en tête, Benjamin?
28 et 29
octobre.
28 octobre. Et 29 octobre 2023, donc vous pourrez rencontrer Benjamin et bien sûr ils reviendront. Donc c'était Karine Fillot, fondatrice d'Elson, et Benjamin Bellamy, fondateur et dirigeant de la société Adores et de Castopod. Écoutez, je vous souhaite une belle fin de journée et puis à
Merci.
Bientôt.
Merci, vous aussi.
Alors, je suis désolé, Julie, on va pas faire de pause musicale pour ta première régie. On va passer directement au sujet suivant. Alors, nous allons passer au sujet suivant. Nous allons poursuivre avec l'interview de Duchesse France, une association destinée à valoriser et promouvoir les développeuses et les femmes avec des profils techniques, leur donner plus de visibilité, mais aussi à faire connaître ces métiers techniques et créer de nouvelles vocations. Alors, normalement, nous sommes par téléphone avec Cécilia Bossard, qui est membre de Duchesse France et qui est consultante chez Chaudeau Nantes. Cécilia, tu es avec nous ?
Oui, bonjour.
Bonjour Cécilia, nickel. Alors, première question toute simple en fait, mec, assez large, hein. C'est quoi Duchesse France ? Quels sont les objectifs, les missions de cette association ?
Alors, Duchesse, c'est une association qui, comme tu disais tout à l'heure, le but c'est de promouvoir et de valoriser les développeuses et les femmes avec des profils tech. Mais c'est surtout, avant tout, une communauté. Communauté des femmes dans la tech. Donc on a plusieurs objectifs. Le premier, ça va être de faire en sorte de mettre en avant des rôles modèles et des femmes qui peuvent intervenir dans les conférences. On va aussi essayer d'améliorer le nombre d'intervenantes dans ces conférences techniques qui sont très masculines. Et pour ça, on va proposer de l'aide pour répondre aux appels à orateurs qui peuvent faire ces différentes conférences et aussi de l'aide pour répéter une fois que la proposition a été acceptée. On propose aussi des marrainages à destination des femmes qui vont débuter dans le domaine. Il y en a beaucoup qui arrivent en reconversion. On va leur proposer des marrainages pour les accompagner dans ces premiers pas. Et puis on organise aussi des événements techniques avec essentiellement des femmes qui vont parler.
D'accord. Et le nom Duchesse France, alors je précise que c'est Duchesse sans E, ça vient d'où ?
C'est ça. Donc à l'origine, Duchesse, c'est un Java User Group. C'est-à-dire que c'est un groupement de développeurs et développeuses qui programment en langage Java. Donc le nom de l'association tient son origine de la mascotte de Java qui s'appelle Duke. Donc Duke, ça veut dire duc en anglais, donc la version féminisée, duchesse en anglais. Alors, à noter qu'aujourd'hui, le groupe s'est diversifié et on s'adresse à tous les profils, quelle que soit leur technologie, on n'est pas que Java.
D'accord. Et aujourd'hui, vous savez combien vous êtes à peu près ?
C'est un peu compliqué, je dirais. Vu qu'on est une communauté, on se demande pas très souvent. Donc, actuellement, si on se base sur les chiffres qu'on peut avoir, il y a à peu près 3000 personnes inscrites sur notre groupe Meetup.
D'accord.
Pour participer aux événements. On a un Slack également où on est environ 600 femmes. Donc Slack, c'est notre outil de messagerie qu'on utilise. Et on est 10 dans l'équipe d'organisation de l'association.
D'accord, dans le groupe principal, quoi. Alors justement sur donc Slack, c'est un outil de discussion en direct et de gestion de projet, si je me souviens bien, un truc comme ça. Tu viens de dire, si j'ai bien compris, que donc c'était réservé aux femmes. Donc c'est vraiment un groupe qui est en non mixité choisi, c'est ça ?
C'est ça. On a eu le souhait de rester entre femmes pour améliorer les échanges et faire en sorte que la parole soit plus libre. On avait constaté quand on était en mixité, la parole était moins libre et les échanges moins fluides.
D'accord. Et donc les événements que vous organisez, c'est pareil, c'est en non mixité choisi ou ça peut varier ?
Non, les événements sont en général mixtes. Par exemple, les meet-ups qu'on peut organiser, les présentations techniques, c'est mixte, mais on fait en sorte d'avoir que des femmes sur la scène.
D'accord.
Mais dans le public, c'est ouvert à tous, sauf exception. De temps en temps, on fait des choses en non-mixité, mais ça reste assez ponctuel.
D'accord. Et comment une femme... Donc, alors, quand on dit une femme technique, est-ce que c'est uniquement des développeuses ou c'est des profils techniques différents ? Et est-ce que c'est forcément technique, d'ailleurs ?
Alors, nous, on souhaite vraiment avoir que des profils techniques, donc développeuses, mais ça peut être aussi... admin réseau, gestionnaire de base de données, UX designer, enfin voilà, c'est le panel est assez large, mais en restant technique quand même.
D'accord.
Pas de RH, pas de commercial, pas de.
D'accord, ok, je comprends. Et est-ce que tu as une idée du profil, et notamment est-ce que c'est plutôt des développeuses, je sais pas, là, 40, 50 ans, est-ce que des jeunes arrivent parce que l'un des enjeux justement c'est de donner envie de créer des nouvelles vocations. Est-ce que vous voyez donc par exemple des jeunes femmes développeuses qui arrivent ?
Oui, on en a dans la communauté des étudiants qui ou en début de carrière qui arrivent, mais on a aussi de plus en plus de femmes issues de reconversion qui sont un peu plus âgées, mais débutantes quand même dans le domaine.
D'accord, ok. Et donc une femme qui serait intéressée, par exemple qui nous écoute, une développeuse ou une femme technique, comment elle peut participer? Comment elle peut vous rejoindre? C'est quoi le processus pour vous rejoindre?
Donc on a, c'est déjà d'intégrer le Slack en unicité. Donc il suffit d'envoyer un message. Donc tout est expliqué sur notre site, en fait, dans la page contact. Là, on peut envoyer un message pour rejoindre ce Slack en unicité, parce que du coup on filtre entre guillemets les entrées pour s'assurer que la communauté reste saine.
Alors le site.
Et après,
vas-y.
Après nous suivre aussi sur les différents réseaux ou assister et participer à nos différents événements.
D'accord, alors je précise parce qu'on n'a pas dit, le site de Duchesse France, c'est duchesse-france.fr, hein, mais on mettra les références sur le site de l'émission. Alors, si on veut aussi vous rencontrer dans l'actualité des Duchesses, je crois qu'il y a les 13 ans des Duchesses à Paris le 17 octobre, c'est-à-dire dans quelques jours, la semaine prochaine, mardi prochain.
C'est ça, la semaine prochaine.
Est-ce qu'il reste encore de la place pour si des gens veulent venir?
Il reste des places.
Ah, d'accord.
C'est possible de venir. Donc, ce sera des présentations orientées autour de l'IA.
De l'intelligence artificielle.
Voilà.
D'accord, ok. Donc le principe, c'est deux, trois présentations, puis ensuite un échange autour de choses à manger et à boire, c'est ça?
Tout à fait.
D'accord. Ok. Alors, on l'a dit, Duchesse France est une association destinée à valoriser et promouvoir les développeuses et les femmes avec des profils techniques. Mais dedans, il n'y a pas la notion de logiciel libre ou de liberté informatique. Alors, ce qui en soit pas gênant, bien entendu. Mais quelle est la place du logiciel libre, des services libres chez Duchesse France, à la fois en interne et puis dans vos outils de communication?
Alors, en effet, le libre, c'est pas trop le cœur de notre activité. mais on est plusieurs à y être sensibilisés quand même. Donc on essaye autant que faire se peut d'utiliser des outils libres ou au moins open source, même si c'est pas toujours facile, la preuve, on utilise Slack, on utilise GitHub, tout ça. Mais bon, on espère pouvoir faire évoluer les choses, faire bouger 3000 personnes sur Meetup pour les mettre sur Mobilizon, c'est pas toujours facile.
Donc, oui, c'est clair.
On essaye de s'améliorer sur ce point-là, mais c'est vrai qu'on a d'autres feux un peu partout à gérer avant.
Ouais. En tout cas, de point de vue de personnes qui ont besoin, enfin, qui recherchent des intervenantes pour des émissions de radio, par exemple, Duchesse France est une ressource, enfin vraiment de première qualité, enfin vraiment parce que, et on peut le dire même dans l'émission Libre à vous, parce que vous êtes plusieurs à être intervenus dans Libre à vous. Il y a Katia Aresti, Zineb Bendiba, il y a Agnès Crépet qui est venue plusieurs fois. Toi-même, tu es venu parler des logiciels de gestion de version décentralisée il y a quelques mois. Donc c'est vraiment une ressource pour les personnes qui cherchent des intervenantes, et je pense notamment aux structures qui organisent des conférences et qui disent souvent on n'a pas d'intervenantes. Il y a des structures comme Duchesse sur lesquelles, en fait, il y a une page, alors je ne sais plus à quel endroit exactement, mais il y a la présentation des personnes qui peuvent intervenir sur différents sujets, et dedans, effectivement, il y en a qui sont intervenus sur des sujets logiciels libres, et puis après, il y a d'autres sujets, quoi. Donc voilà, c'est quand même très important, et c'est pour ça que c'est aussi pour ça qu'on voulait faire une interview avec vous, parce qu'on considère, voilà, que c'est quelque chose qui est essentiel, de toute façon, la promotion, la valorisation des femmes dont un lien forcément avec les libertés informatiques, mais en plus, vous êtes une ressource importante en termes de conférences. Et alors, ça me fait penser, est-ce que vous êtes souvent sollicité pour des conférences, justement, ou pour des interventions en radio ou podcast, vu qu'on parlait de podcast à l'instant? Est-ce que vous êtes souvent sollicité?
Pas tant que ça, non. En tout cas, radio et podcast, pas souvent. Après, pour les conférences, en général, nous, on relaye en interne les appels à orateurs.
D'accord, alors attends, je vais juste réactiver le micro de Julie, est-ce que tu peux... Parce que Karine Venfilo, qui intervenait juste avant, me met un petit mot, mais j'arrive pas à comprendre ce qu'elle veut dire. Alors, vas-y.
Festival et convention... les conventions, le Mama Events qui a lieu bientôt, il me semble, qui est une convention du secteur de la musique, notamment. Donc voilà, je me posais la question.
Alors je sais pas, est-ce que tu connais le Mama Event, Cécilia?
Malheureusement, non.
D'accord. Bon, écoute,
je vais regarder et relayer si jamais.
Ouais. Ok. Tu peux recouper le micro, Julie, si tu veux. En fait, alors, ce qui est bien pour Julie qui est en formation, en fait, c'est qu'on lui fait des petits trucs, parce qu'en général, dans les intervenants du sujet précédent n'interviennent pas, mais c'est, en tout cas, c'est très bien. Alors, j'ai vu aussi dans votre actualité quelque chose qui est intéressant. Vous avez publié, parce que vous avez un blog aussi, hein, enfin, sur votre site sert aussi de blog avec des articles, alors, qui sont franchement très intéressants. Je les lis régulièrement parce qu'ils sont souvent, très souvent bien détaillés et ils sont actionnables. Il y a souvent des choses qu'on peut faire. Et là, j'ai vu qu'il y avait les annonces que vous encouragiez les entreprises, enfin, structures, à vous passer des offres de stage, d'alternance et de premier emploi pour pouvoir les diffuser dans votre réseau. Est-ce que tu peux juste en dire un petit mot?
On constate que il y a pas mal de femmes en alternance, en reconversion ou autres qui sont en recherche de stage ou d'alternance et qui ont vraiment beaucoup de mal à trouver ce premier emploi. Et on souhaiterait plus de propositions parce qu'on n'en voit pas. Parce qu'on voit beaucoup passer d'annonces pour des profils seniors et pas beaucoup pour des profils juniors. Donc pour essayer d'aider toutes ces femmes qui ont du mal à trouver ce premier emploi. On a mis en place ce formulaire. Donc, si jamais des entreprises sont à la recherche d'alternants ou de stagiaires, faut surtout pas ou de premier emploi pour des juniors, faut surtout pas hésiter à nous envoyer ces annonces. Ça sera avec grand plaisir que nous relayerons au sein de la communauté.
Bon, bah écoute, l'appel est passé. Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose d'autre?
Je pense qu'on a fait à peu près le tour de nos activités.
D'accord, alors j'encourage donc toutes les personnes à aller donc sur le site de Duchesse France, hein, je répète Duchesse sans E, avec -france.fr, donc sur lequel vous trouverez à la fois les profils d'intervenantes potentielles. Vous avez un blog où vous avez beaucoup d'articles qui sont très intéressants autour donc de la thématique, hein, de la valorisation des femmes avec des profils techniques, et vous avez des moyens de contact, soit pour passer des offres de stage d'alternance ou de premier emploi, ou pour contacter les personnes ou leur poser une question, en sachant qu'évidemment vous êtes sans doute très sollicité. Donc vous ne pouvez pas répondre à toutes les questions. En tout cas, Cécilia, c'était un plaisir de t'avoir pour la deuxième fois dans l'émission. Alors je vais quand même préciser que les gens qui veulent t'écouter un peu plus longuement peuvent écouter l'émission numéro 160 de Libre à vous. Donc c'était sur les logiciels de gestion de version décentralisée, les forges logicielles. Donc c'est sur libreavoue.org/160. Tu intervenais de mémoire avec Nicolas Chauva. Donc je crois que c'était il y a à peu près un an de cela, si je me souviens bien, peut-être en novembre ou décembre 2022. Si tu confirmes.
C'est possible.
Ouais, c'est possible. Bon, en tout cas, voilà. Si vous voulez vous écouter, et je remercie encore une fois les autres duchesses qui sont déjà intervenues dans l'émission et qui interviendront bientôt parce qu'on a déjà des nouveaux sujets qui sont prévus, notamment avec Florence Chabanois. La date n'est pas encore fixée, mais ça arrivera sans doute bientôt. Bah, écoute, merci Cécilia. Je te souhaite une belle fin de journée. Et puis à bientôt.
Merci. Bonne journée également.
Au revoir.
Au revoir.
On va passer aux annonces de fin. Alors, dans les annonces de fin, je regarde de l'heure. Donc, le 21 octobre à Lyon, il y a le Campus du Libre. Donc, c'est un événement inter-établissement dans l'enseignement supérieur et la recherche, donc autour du logiciel libre. Donc, n'hésitez pas à y aller. Le programme, je crois, est en ligne. On est mardi 10 octobre 2023. Aujourd'hui, c'est le Ada Loveless Day, une initiative lancée en 2009 qui vise à présenter les réussites de femmes actives dans le domaine technologique ou scientifique afin d'augmenter la visibilité de modèles positifs féminins. À l'occasion de cette journée, l'April a choisi de vous faire découvrir ou redécouvrir les trois premiers parcours libristes diffusés dans l'émission Libre à vous. L'occasion de mettre en lumière des parcours auxquels il est possible de s'identifier et de se dire si c'est possible pour cette personne, c'est aussi accessible pour moi. Parce que l'un des problèmes potentiels des rôles modèles, c'est que c'est difficile de s'identifier par exemple avec une femme qui a deux prix Nobel, comme Marie Curie. Donc là, c'est des profils dans lesquels on peut s'identifier. Donc on a mis en ligne sur le site de l'April, april.org, mais vous trouvez aussi la référence sur libreavoue.org. Et les trois femmes en question, donc il y a Agnès Crépet, donc qui est de Fairphone et membre de Duchesse France, il y a Françoise Conil qui est ingénieure au CNRS à Lyon, et il y a Magali Garnero qui est libraire, mais également présidente de l'April. Là, vous pouvez retrouver ces trois parcours libristes. Et je vous invite à consulter le site de l'Agenda du Libre, agendadulibre.org, pour trouver tous les événements en lien avec les logiciels libres ou la culture libre près de chez vous. Alors, l'émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission du jour. Isabelle Carrère, Karine Fillot, Benjamin Bellamy, Cécilia Bossard, aux manettes de la régie aujourd'hui, et c'est une belle première. Bravo, Julie Chomard. Merci également aux personnes qui s'occupent de la post-production des podcasts. Samuel Aubert, Elodie Daniel Girondon, Languin, Julien Haussmann, bénévole à l'April, et Olivier Grieco, le directeur d'antenne de la radio. Merci également à Quentin Gibault, bénévole à l'April, qui découpe le podcast individuel en podcast, complet en podcast individuel. Sur le site web de l'émission, libravou.org, vous retrouverez toutes les références utiles, ainsi que sur le site de la radio causecommune.fm. N'hésitez pas à nous faire des retours, nous indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Vous pouvez également nous poser toutes questions et nous en répondrons directement ou lors d'une prochaine émission. Si vous préférez nous parler, vous pouvez aussi nous laisser un message sur le répondeur de la radio pour réagir à l'un des sujets de l'émission, partager un témoignage, vos idées, vos suggestions, vos encouragements ou nous poser une question. Numéro du répondeur, 09 72 51 55 46. Je répète, 09 72 51 55 46. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, ben ne mettez pas des étoiles partout. Parlez-en autour de vous. Et puis vous pouvez vous inscrire à la lettre d'actu de l'émission sur le site libravou.org. La prochaine émission aura lieu en direct mardi 17 octobre 2023 à 15h30 avec un nouveau format de sujet principal qu'on a intitulé « Graines de libriste ». Une étudiante et un étudiant viendront nous parler de leur parcours dans un cursus logiciel libre. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi 17 octobre 2023. Et d'ici là, portez-vous bien !